Chapitre 21. Le lendemain matin, comme ils étaient à déjeuner, Silas dit à Eppy : Eppy, il y a une chose que j'ai l'intention de faire depuis 2 ans. Maintenant que l'argent nous est revenu, nous pouvons la mettre à exécution. J'y ai réfléchi 1000 fois cette nuit, et comme les beaux jours durent encore, je crois que nous partirons demain. Nous laisserons la maison et tout le reste aux soins de votre marraine. Nous ferons un petit paquet d'effets, et nous nous mettrons en route.
« Pour aller où, petit père ?» dit Eppy, très surprise.
« Dans mon ancien pays, dans la ville où je suis né, dans la cour de la lanterne. Je désire voir M. Paston, le pasteur. On a peut-être découvert quelque indice qui ait permis de reconnaître que j'étais innocent du vol. M. Paston était un homme qui avait beaucoup de lumière. Je veux l'entretenir au sujet de la coutume de jeter le sort. J'aimerais aussi à lui parler de la religion de ce pays, car je suis tenté de croire qu'il ne la connaît pas. » Eppy fut très joyeuse. Il y avait pour elle non seulement la perspective de l'étonnement et du plaisir de voir un nouveau pays, mais aussi celle de revenir raconter à Aaron tout ce qu'elle aurait vu ou entendu. Aaron était tellement plus instruit qu'elle sur la plupart des choses que ce serait assez agréable d'avoir ce petit avantage vis-à-vis de lui. Madame Winthrop, qui avait une crainte vague des dangers inhérents à un voyage aussi long, exigea à plusieurs reprises l'assurance que nos voyageurs n'iraient pas au-delà des régions desservies par les voitures des messagers et les lentes charrettes. Elle était cependant très contente que Silas allât revoir son pays et découvrir si on l'avait justifié de la fausse accusation dont il avait été l'objet. Vous auriez l'esprit plus tranquille durant le reste de votre vie, maître Mana, dit Dolly, j'en suis sûr. Et s'il y a moyen d'obtenir quelques lumières dans la cour de la lanterne dont vous parlez, comme nous en avons besoin dans ce monde, je serai moi-même bien aise que vous puissiez les rapporter avec vous. En conséquence, 4 jours après, Silas et Eppy, revêtus de leurs habits du dimanche, et avec un petit paquet enveloppé dans un mouchoir de toile bleue, traversaient les rues d'une grande ville manufacturière. Silas, désorienté par les changements qu'un laps de 30 années avait introduits dans sa ville natale, venait d'arrêter successivement plusieurs personnes pour leur demander le nom de la ville et s'assurer qu'ils n'étaient point sous l'influence d'une erreur. « Demandez où est la cour de la lanterne, mon père. Demandez à ce monsieur qui a des aiguillettes sur l'épaule et qui est debout à la porte de ce magasin. Il n'est pas pressé comme les autres, » dit Eppy, assez affligé de la perplexité de son père, et en outre mal à l'aise au milieu du bruit, du mouvement et de la multitude de physionomies étrangères et indifférentes. « Ah, mon enfant, il n'en saura rien, » dit Silas. « Les gens de la bourgeoisie n'allaient jamais dans la cour de la lanterne. Mais peut-être que quelqu'un pourra m'indiquer où est la rue de la prison, dans laquelle se trouve la maison d'arrêt. Je connais mon chemin à partir de là comme si je l'avais vu hier. » Ils arrivèrent avec assez de difficulté dans la rue de la prison, après avoir fait beaucoup de détours et pris beaucoup d'autres informations. Les murs hideux de la maison d'arrêt, le premier objet qui correspondit à quelque image dans la mémoire de Silas, lui donnèrent la joyeuse certitude qu'aucune assurance relative au nom de la ville n'avait encore pu lui procurer, qu'il était bien au lieu de sa naissance. « Ah, » dit-il, respirant longuement, « voilà la maison d'arrêt, Eppy. Elle n'a pas changé. Je n'ai plus d'inquiétude maintenant. C'est la 3e rue à gauche, à partir des portes. Voici le chemin que nous devons prendre. » « Oh, quel vilain endroit sombre !» dit Eppy. « Comme il cache le ciel. C'est pire que l'asile des pauvres à Ravelow. Je suis bien aise que vous ne demeuriez plus dans cette ville, mon père. La cour de la lanterne est-elle comme cette rue ?»« Mon enfant chéri, » dit Silas en souriant, « ce n'est pas une grande voie comme celle-ci. Je n'ai jamais été moi-même à mon aise dans cette grande rue. Cependant, j'aimais la cour de la lanterne. Les boutiques ici sont toutes changées, il me semble. » Je ne les reconnais plus, mais je reconnaîtrai la rue parce que c'est la 3e. La voilà, dit-il d'un ton de satisfaction, comme ils arrivaient à un passage étroit. Maintenant, il nous faut aller à gauche de nouveau, puis tout droit, pendant un petit bout de temps, en remontant la ruelle des souliers. Alors nous serons à l'entrée de la cour, à côté de la fenêtre en saillie. C'est l'endroit où il y a un ruisseau dans la rue pour permettre à l'eau de s'écouler. Ah, il me semble voir tout cela.
Oh, papa, c'est comme si je suffoquais, dit Épée. Je n'aurais pas pu croire qu'il y eût des gens vivant de cette manière, aussi près les uns des autres. Que les carrières nous sembleront jolies à notre retour. Mon enfant, cela me paraît drôle de moi aussi, maintenant, et ça sent mauvais. Je ne puis pas me persuader que l'odeur était si désagréable autrefois. Ça et là, quelques visages blêmes et barbouillés, regardant les étrangers de l'entrée obscure d'une porte, augmentaient l'inquiétude d'Épée. Aussi éprouva-t-elle un soulagement depuis longtemps désiré lorsqu'ils sortirent des passages étroits pour pénétrer dans la ruelle des souliers, d'où l'on voyait une plus large bande du ciel. « Oh, grand Dieu !» dit Silas. « Mais voilà des gens qui sortent de la cour, comme s'ils revenaient de la chapelle à 7 heures de la journée, à midi, un jour de la semaine. » Soudain, il tressaillit et resta immobile, avec un regard éperdu et désespéré qui alarma Épée. Il se trouvait devant une entrée en face d'une grande manufacture. De cette entrée sortaient des flots d'hommes et de femmes qui allaient prendre leur repas de midi. « Mon père !» dit Épée, lui saisissant le bras. « Qu'y a-t-il ? » Mais elle fut obligée de lui parler plusieurs fois de suite, avant qu'il pût lui répondre. « Elle est disparue, mon enfant, » dit-il enfin, avec une agitation violente. « La cour de la lanterne est disparue. C'est ici qu'elle a dû être, parce que voici la maison avec la fenêtre en saillie. Je la reconnais, on ne l'a pas changée. Mais on a fait cette nouvelle entrée, et voyez cette grande manufacture. Toute la cour a disparu, la chapelle et le reste. » « Venez vous asseoir dans ce petit magasin de brosse, papa. On vous le permettra, » dit Épée, toujours sur le qui-vive, dans la crainte que son père ne fût pris d'une de ces étranges attaques. « Peut-être que les gens pourront vous dire tout ce qu'il en est. » Mais ni le marchand de brosse, qui n'était venu dans la ruelle des souliers que 10 ans auparavant, alors que la manufacture était déjà bâtie, ni aucune autre personne à qui Silas eut l'occasion de s'adresser, ne furent en état de lui fournir le moindre renseignement sur ses anciens amis de la cour de la lanterne ou sur M. Paston, le pasteur. Toute la vieille place est disparue, dit Silas à Dolly Winthrop le soir de son retour. Le petit cimetière et tout le reste. Mon ancienne demeure n'existe plus. Je n'en ai plus d'autre que celle-ci maintenant. Je ne saurai jamais si on a découvert la vérité au sujet du vol, ni si M. Paston aurait été capable de me donner quelque éclaircissement sur la coutume de jeter le sort. Tout cela est obscur pour moi, en vérité, Madame Winthrop, et je crains qu'il n'en soit ainsi jusqu'à la fin. « Eh bien, oui, Maître Mana, » dit Dorley, qui était assise à l'écouter, avec un visage calme, aujourd'hui encadré de cheveux gris. « Je le crains aussi. C'est la volonté de ceux qui sont là-haut que beaucoup de choses restent obscures pour nous. Mais il y en a quelques-unes qui ne l'ont jamais été pour moi. Ce sont principalement celles qui me viennent à l'esprit pendant le travail de la journée. Vous avez été cruellement mise à l'épreuve cette fois-là, Maître Mana, et il me semble que vous n'en connaîtrez jamais la véritable raison. Néanmoins, cela n'empêche pas cette raison d'exister, bien que la chose soit obscure pour vous et pour moi. Non, dit Silas, non. Cela n'empêche pas qu'elle n'existe. Depuis l'époque où l'enfant m'a été envoyé, et où j'ai commencé à l'aimer comme moi-même, j'ai eu assez de lumière pour avoir confiance. Et maintenant qu'elle dit qu'elle ne me quittera jamais, je crois que j'aurai confiance jusqu'à la mort. Conclusion. Il y avait une époque de l'année qu'on considérait à Ravelow comme particulièrement convenable pour un mariage. C'était lorsque les grands lilas et les grands ébéniers des jardins à l'ancienne mode montraient leurs riches teintes d'or et de violet au-dessus des murs colorés par les lichens, et qu'il y avait des veaux encore assez jeunes pour réclamer des seaux remplis de lait odorant. Les gens n'étaient pas alors aussi occupés qu'ils devaient l'être plus tard, quand arriverait la pleine fabrication du fromage et la fauchaison. En outre, c'était l'époque où une mariée pouvait être à son aise dans une robe légère et paraître avec avantage. Heureusement, le soleil dardait des rayons plus chauds que de coutume sur les touffes de lilas le matin du mariage d'Épée, car sa robe était très légère. Elle avait souvent pensé, bien que ce fût avec une idée de renoncement, qu'une robe de mariée, pour être parfaite, devait être en coton blanc, parsemée à de grands intervalles de fleurettes roses minuscules. Aussi, quand Madame Godfrey Cass s'offrit à lui en donner une et la pria de la choisir, Eppy avait été préparé par une réflexion antérieure à faire sans hésitation une réponse décisive. Vue à quelque distance, comme elle marchait à travers le cimetière et descendait le village, Eppy semblait vêtue de blanc immaculé, et ses cheveux produisaient l'effet de cette teinte d'or qu'on voit sur un lys. L'une de ses mains s'appuyait au bras de son mari. De l'autre, elle serrait celle de son père, Silas. « Vous n'allez pas me donner, père, » avait-elle dit avant le départ pour l'église. « Vous ne ferez que prendre Aaron pour fils. » Dolly Winthrop venait après avec son mari, et c'était là tout le petit cortège nuptial. Il y avait beaucoup d'yeux pour le regarder, et Mademoiselle Priscilla Lamatin était bien aise qu'elle et son père se fussent trouvés arrivés en voiture à la porte de la Maison Rouge, juste à temps pour voir ce joli spectacle. Ils étaient venus tenir compagnie à Nancy ce jour-là, parce que M. Cass avait été obligé, pour des raisons particulières, de se rendre à Lytherley. Ceci semblait être bien dommage, car autrement, il aurait pu, comme M. Crackenthorpe et M. Osgood ne manqueraient pas de le faire, aller voir le repas de noces qu'il avait commandé à l'auberge de l'Arc-en-Ciel, en raison du grand intérêt qu'il portait naturellement au tisserand, lésé par un membre de sa famille. J'aurais bien désiré que Nancy eût le bonheur de trouver une enfant pareille à celle-là pour l'élever, dit Priscilla à son père, comme ils étaient assis dans le cabriolet. J'aurais pu songer alors à quelque chose de jeune, outre les agneaux et les veaux. Oui, ma chère, oui, dit M. Lamatin. On sent cela lorsqu'on avance en âge. La vie semble sombre aux vieilles gens. Ils auraient besoin d'avoir quelques jeunes figures autour d'eux pour être sûrs que le monde est le même qu'autrefois. Nancy sortit alors pour souhaiter la bienvenue à son père et à sa sœur. Mais le cortège nuptial avait déjà passé la Maison Rouge et se dirigeait vers la partie la plus humble du village. Dolly Winthrop fut la première à deviner que le vieux M. Macy, qu'on avait placé dans un fauteuil devant sa porte, s'attendrait lors de leur passage à quelques égards particuliers, puisqu'il était trop âgé pour assister au repas de noces. « Monsieur Macy espère un mot de notre part, » dit Dolly, « et il sera blessé si nous passons près de lui sans rien dire. Lui, si torturé par les rhumatismes. » Ils s'approchèrent donc pour donner une poignée de main au vieillard. Il avait compté sur cette circonstance, et il avait prémédité son discours. « Eh bien, maître Mann, » dit-il d'une voix qui tremblait beaucoup, « j'ai vécu pour voir mes paroles se réaliser. C'est moi qui ai dit le premier que vous étiez inoffensif, bien que vos regards ne fussent point en votre faveur. Et c'est moi aussi qui vous ai dit le premier que vous retrouveriez votre argent. Et ce n'est que justice qu'il vous soit revenu. J'aurais volontiers répondu les Amen au Saint-Office du mariage, mais il y a déjà longtemps que Touquet me remplace. J'espère que vous ne vous en trouverez pas plus mal. » Dans la cour en plein air, devant l'auberge de l'Arc-en-Ciel, le groupe des invités était déjà rassemblé, quoiqu'il y eût presque encore une heure avant le commencement fixé pour le repas. Mais de cette manière, chacun pouvait jouir de la lente arrivée de son plaisir. On avait aussi grandement le temps de parler de l'étrange histoire de Silas Marner, et d'arriver peu à peu à la juste conclusion qu'il s'était attiré une bénédiction en se conduisant comme un père envers une enfant restée sans mère et abandonnée. Le maréchal lui-même ne repoussa point cette opinion. Au contraire, il la considéra particulièrement comme sienne, et invita toute personne courageuse parmi ceux qui étaient présents à la combattre. Mais il ne trouva aucun contradicteur, et tous les différends de la compagnie disparurent dans l'acceptation unanime de l'avis de M. Snell, que lorsqu'un homme avait mérité sa bonne fortune, c'était le devoir de ses voisins de l'en féliciter. Comme le cortège nuptial s'approchait, une acclamation cordiale s'éleva dans la cour de l'auberge, et Ben Winthrop, dont les plaisanteries avaient conservé leur saveur agréable, trouva qu'il était convenable d'entrer pour recevoir des félicitations. Il ne se sentait pas le besoin de quelques moments de repos qu'on lui avait proposé de prendre aux carrières, avant de se joindre aux invités. Eppy avait maintenant un jardin plus grand qu'elle ne l'avait jamais espéré, et sous d'autres rapports, des changements avaient été opérés aux frais de M. Cass, leur propriétaire, pour répondre aux besoins de la famille de Silas, devenue plus grande. car lui et Happy avaient déclaré qu'ils aimaient mieux rester aux carrières que d'aller habiter aucune autre demeure. Le jardin avait été clos de pierres des deux côtés, mais sur le devant, il y avait une claire-voie à travers laquelle les fleurs brillaient d'allégresse pour répondre au bonheur des quatre personnes unies qui s'avançaient en face d'elles. « Mon père, dit Happy, quelle jolie demeure nous avons. Je ne crois pas qu'on puisse être plus heureux que nous. » Fin.